Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Bana Okapi sur Radio Okapi. Ce programme dédié aux plus jeunes est réalisé en partenariat avec l'UNICEF. Il est diffusé sur les antennes des Radio Okapi du lundi au vendredi des 15h30 à 17h. En avril 2016, une violente inédite éclate au Kasaï central, à l'origine la révolte d'un chef coutumier, Kamona Sapu, contre l'autorité de l'État. Le 22 août 2016, en effet, Jean-Pierre Mpandi, le chef du clan de Bajila Kasanga, est tué par balle lors d'une opération de force de défense et de sécurité congolaise. Pour venger leur chef, des miliciens, en majorité des jeunes et des enfants, désormais appelés Kamwena Sampou, s'attaquent aux symboles de l'État et tuent certains représentants du pouvoir. Les violences s'étendent dans toute la région du Grand Kasaï, alimentées par le ralliement de nombreux jeunes. Mais en 2017, c'est reverse de l'histoire. Plusieurs enfants et jeunes Kamwena Sampou acceptent de se désarmer sur fond des promesses du gouvernement. 8 ans après ces événements malheureux, quelle est la vie des nombreux jeunes du Kasaï? Nous allons le savoir dans cette émission Bana Okapi, mise en onde par Debs Vita et animée par Stanislas Diumi. Bienvenue à tous. Fin 2016, un conflit éclate dans la province du Kasaï central et embrasse toute la région du Kasaï. Des miliciens Kamwena Sampou se sont opposés aux forces de sécurité à la suite de mort de Jean-Pierre Mpandi. Cette crise a un effet dévastateur sur des enfants ainsi que de jeunes qui avaient rallié ce mouvement armé. En 2017, ils acceptent de désarmer et de revenir à la vie civile. Gisèle Cage a rencontré certains ex-miliciens Kamwena Sampou ainsi que d'autres jeunes qui ont accepté de parler de leur vie après les tensions armées. Nous recevons Gisèle dans ce studio. Bonjour Gisèle.
Bonjour Stanislas Dium.
Alors dites-nous, quelle est la vie des jeunes Kasaïens après le Kamwena Sampou?
Bon, je vais commencer par parler d'abord des jeunes qui n'ont pas pris part aux tensions dans la région du Kasaï. La majorité de ceux qui ont été interrogés disent la même chose. L'État congolais a failli à ses responsabilités. Ils se sentent abandonnés et oubliés. Avant et après le Kamwena Sampou, la situation des jeunes du Kasaï n'a pas changé. Il faut rappeler ici que plus de 60% de la population du Kasaï central est jeune. Mais de milliers de jeunes sont sans emploi et la province du Kasaï central, située au centre du pays, a du mal à décoller.
Alors, qu'en est-il des jeunes qui étaient enrôlés dans cette milice?
Au départ de la crise Kamwena Sampou, le jeune qui s'était rallié à ces mouvements s'attendait à plus de changements pour leur province. Il faut dire que la province du Kasaï central est en tout cas parmi les provinces les plus enclavées de la RDC. Et il n'y a pas d'infrastructure adéquate, pas de route praticable. La route Kalambambouji, longue de 223 km qui relie Kananga à la République d'Angola, ainsi que toutes les routes de desserte agricole, sont totalement délabrés, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'emploi pour le jeune. Les jeunes diplômés qui quittent les universités ou qui finissent leurs études secondaires n'arrivent pas en tout cas à décrocher un travail.
Donc Gisèle, vous voulez dire que la crise Kamwena Sampou a aggravé le taux de chômage?
Bon, tout à fait Stani. Le gouvernement congolais n'a pas prévu du travail pour le jeune, d'après eux. Donc ça, c'est vraiment le jeune qui l'ont déclaré. Seuls les privés, les ONG internationales ou des agences du système des Nations Unies qui peuvent donner du travail. Même les jeunes entrepreneurs ont du mal à accéder au marché. Nombreux qui ont commencé à investir abandonnent donc au bout du chemin. Pour ces jeunes, l'État congolais n'a pas donné la chance aux jeunes sortis des hostilités et n'encourage pas les initiatives de jeunes entrepreneurs. En Gaza, par exemple, dans la périphérie de la ville de Kananga, des jeunes se livrent à la concasse des pierres pour survivre. Pourtant, de nombreuses promesses ont été faites après la crise Kamuinansapu, par exemple la reconstruction des infrastructures détruites qui n'a pas été faite, la cohésion sociale non plus. La commission Vérité et Réconciliation instaurée en 2022 n'a pas encore commencé son travail et les auteurs des crimes restent impunis. Bref, le conflit Kamuinansapu a encore accentué le chômage, en tout cas chez des jeunes.
Et que dire des anciens Kamuinansapu? Quels sont-ils devenus?
Bon, il faut dire que des anciens combattants Kamuinansapu, eux disent être abandonnés par l'État congolais depuis leur démobilisation en 2017. Au-delà du désarmement, ces ex-combattants devraient en principe bénéficier d'une bonne réinsertion dans la communauté, selon les organisations locales, dont le Conseil provincial de la jeunesse. Sur 6000 adolescents et jeunes adultes sortis de la milice Kamuinansapu à partir de 2017-2018, seuls 600 ont été formés, encadrés, assistés et qui aujourd'hui exercent un métier. Mais au moins 5400 ex-combattants qui n'ont pas bénéficié d'une formation professionnelle et des kits de réinsertion sont au chômage. Il faut aussi préciser qu'au sein de Kamuinansapu, il y avait aussi des enfants. Certains d'entre eux avaient repris le chemin de l'école, alors que d'autres non. UNICEF et ses partenaires avaient assisté 826 enfants sortis des milices avec un appui psychosocial et un accompagnement dans 5 centres de transit et d'orientation. Mais de nombreux jeunes adultes Kamuinansapu n'ont aucune activité. Un ancien colonel Kamuinansapu a déclaré que plusieurs ex-combattants sont frustrés à ces jours car ils n'ont aucune occupation alors qu'ils avaient accepté de déposer les armes à la demande des autorités du pays. Des autorités qui les avaient promis de les intégrer dans le service militaire, soit dans la société, moyennant un kit de réinsertion. Nous allons l'écouter, donc nous allons écouter cet ex-colonel Kamuinansapu. Ses propos en Tshiluba sont interprétés par François Kadima.
Il a fait partie des combattants de Kamuinansapu, mais après avoir déposé les armes, comment se passe leur vie aujourd'hui?
Bon, quand je suis là,
depuis que le mouvement Kamuinansapu est fini, nous sommes restés dans la souffrance. C'est difficile pour nous.
Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière, nous parler de leur désarmement? Comment ça se fait?
Nous avons été désarmés et puis amenés au stadium. Et là, après, quand nous sommes rentrés, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, nous n'avons rien bénéficié. Et nous nous rendons compte que d'autres personnes bénéficient des choses. Et nous, et les enfants qui étaient avec nous et derrière nous, n'avons rien bénéficié alors que nous étions dans la chose et puis nous avons décidé de lâcher et d'être désarmés. Mais depuis, nous sommes abandonnés, nous n'avons rien et nous n'avons rien bénéficié depuis lors.
Mais quand il parle, il y a certains qui ont bénéficié. Qui sont ces gens-là qui ont bénéficié? Toujours des ex-combattants, mais pourquoi eux, ils ont bénéficié alors que d'autres n'ont pas bénéficié?
Kimba combattant, ne katvona bumu mouvement. Bolo tuki babu akula, patu etunkaye etu. bomuna na toni ba autorité ba province bani kajiti tumuna ababa ngate buko keshi bani ba yakuke ba bintu bya bantu campagne kajika toni ba katoni ba bamayet ba loni bintu abiti bomuna bulem ba banya malata ba banya machine ya bilamba ba banya na bantu bintu tetoni ba bénéficier bolo katoni ba bamany ni katuvunabu mu mouvement mutu.
C'est des gens avec qui nous n'avons pas été avec ces gens-là dans le mouvement. En fait, nous n'avons pas combattu avec ces gens-là. Nous nous sommes battus, mais après, quand on découvre, ce sont ces gens-là qui se sont déclarés nos représentants, alors que nous-mêmes, nous étions là, nous n'avons pas été invités ni associés. Nous en avons parlé avec les autorités. Nous avons vu que ces gens-là ont bénéficié de certaines choses comme les tôles, beaucoup de choses. Et nous, qui avons été dans le mouvement, qui avons combattu avec les enfants, nous n'avons rien bénéficié, nous nous sommes vus abandonnés.
J'ai entendu plusieurs personnes en parler qu'il y a des ex-combattants comme Inasapu qui sont abandonnés à leur triste sort. Ils n'ont rien reçu du tout. Mais qu'est-ce que les autorités vous ont promis? Ou bien ceux-là qui vous ont poussé à prendre les armes, qu'est-ce qu'ils vous ont promis exactement?
Quand tu m'as fait le chintu, tu m'as fait le chintu, tu as compris ton jour filaï d'Italala. D'Italala, j'ai un jour belon province et tout. Le gouvernement central ni andamuna bwalu bwen baji basuye ku busalai baye ku busalai baji basuku shala bashala tini lelewu mutumanda malu ku change mumanda makwa watu jibalu ku bwela a Felix Chilombwa katwe mba beneficier chintu na shichi moto anu bavu ma parti politique bantu bachanan bato katu mune benda ni bintu abi benda bambuluisha twetu tuvumubora ni komite wetu mushima katwe twetu ba bafete chintu na sha chimanaje ni bofu batutangina ni batuvututangina kabe ni ba beneficier chintu na shichi mosha kutabanyina butwetu na sha chim structure mikwao tukatumwe ni structure campagne et une structure campagne kaji structure wetu twetu kenye mu beneficier chintu na shichi moto tokulomba toni tuanze ni marche bakibo boku tukwatu bani katene basuku no vote tokuluku china bietu anto kabaluku kutukwata.
Nous avons eu beaucoup de promesses, mais après nous n'avons rien bénéficié. Quand nous avons déposé les armes, le gouvernement avait promis que voilà, pour certains, ils vont intégrer le service militaire et d'autres vont bénéficier de l'assistance. Mais après tout, on n'a rien vu. Nous avons essayé de revendiquer, nous avons vu des associations naître pour représenter les ex-combattants. Alors ces associations-là, qui ne nous représentaient pas réellement, ceux qui se sont retrouvés, ceux qui sont partis dans le parti politique, nous les avons vus bénéficier de certaines choses. Mais nous ici, nous n'avons rien bénéficié. Et après, nous avons même résolu de mener des actions de rue, des marches. Par la suite, il nous a été interdit de le faire. Nous avons aussi eu peur d'organiser des manifestations, nous disant que voilà, nous risquons d'être arrêtés. Ça veut dire presque nous, là, tous, on n'a rien bénéficié. Après toutes les promesses faites, quand nous avons décidé de lâcher et de laisser les armes, même quand on a intégré le mouvement.
Est-ce qu'aujourd'hui, il a encore les intentions de reprendre les armes au regard de tout ce problème de prise en charge? Voilà. Ils n'ont pas été accompagnés après leur désarmement, ils n'ont rien reçu du tout. Est-ce qu'il a encore aujourd'hui l'intention de reprendre les armes?
Zala situé en Zemalon ça fait du monde ni zala mutu jibasombe mu mwana ujimo kujoka papa ngata chintu enze chintu kampanda selon idée ndiji mulwe lifaje kai mulama bimpe bionde selon le local vuyimo mufete bimo kwense kana.
Vous savez, quand on a faim, on est prêt à tout. C'est que quand on a faim, c'est comme un enfant qui a faim, il peut faire des choses pas bien. Donc ça veut dire, quand on a faim, ça peut nous pousser à faire ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
C'est ça qui dit là. Merci beaucoup. Hein.
Merci, merci.
Mais Gisèle, la crainte est que ces ex-combattants reprennent leurs anciennes activités belliqueuses. Hein.
Bon, c'est d'ailleurs la crainte de responsables de plusieurs organisations, également du Conseil provincial de la jeunesse. Pour eux, maintenir des gens qui avaient pris des armes dans la pauvreté, il y a de risques que certains combattants reprennent les armes une fois de plus, afin en tout cas de revendiquer leurs droits.
Alors Gisèle Cage, merci pour toutes ces précisions. Huit ans après les événements malheureux de Kamuina Sampou, quelle est la vie des nombreux jeunes du Kasaï? On en parle tout à l'heure avec nos invités dans cette deuxième partie de votre émission Bana Okapi.
Okapi, Okapi, Okapi.
L'État congolais n'a pas joué son rôle. Après l'événement de Kamwina Sampou, plusieurs jeunes sont maintenus, toujours au chômage, déplore Possian Divin Missinga, coordonnateur du collectif Dii Dia Kasai. Il s'entretient avec Gisèle Cage.
Monsieur Possian Divin Missinga, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes coordonnateur du collectif Dii Dia Kasai, donc ça veut dire la voix du Kasai. Vous qui êtes tout le temps avec les jeunes, quels sont les problèmes que connaissent les jeunes du Kasaï central?
Pour bien dire, nous sommes une province qui sort de la crise. Et cette crise a été une raison de chute pour beaucoup de choses, une raison de destruction. Ça a commencé par l'instrumentalisation de la jeunesse, parce que c'est une crise qui a été majoritairement maintenu par l'influence des vieux, mais exécuté par la jeunesse. Donc ce sont des jeunes qu'on a pu utiliser dans cette crise ici.
Vous parlez de la crise de Kamwina
Sampou. Kamwina Sampou, bien sûr. Après ça, nous avons connu des pertes des vies humaines, mais aussi des infrastructures de base. Mais beaucoup de gens sont restés sans suite, parce qu'aujourd'hui, l'État congolais n'a pas joué son rôle pleinement comme il faut. Donc il faut parler aussi de la jeunesse qui est majoritairement dans le chômage. Les droits, la constitution congolaise nous donne, dans son article 36, parle que l'État devait mettre en place la politique d'emploi. C'est l'État qui garantit, c'est un droit pour la population. Mais nous constatons que cet article ne mérite pas d'être inscrit dans notre constitution, parce que les jeunes qui quittent l'université sont dans la rue, abandonnés. Les jeunes qui quittent les humanités sont abandonnés. Donc c'est une difficulté pour une province d'abord au centre du pays, sans route, sans électricité, pas même des industries, parce qu'au moins les industries peuvent venir dans une province où on décrit d'abord l'absence totale du courant, et il n'y a pas en fait des routes. Il n'y a pas en soi, l'État au niveau national, au niveau central ou au niveau provincial, il n'y a pas de politiques publiques qui peuvent en fait ouvrir l'espace à tout le monde pour mériter quand même la vie. Il y a des choses qu'on manque, alors que dans la vie humaine, on ne peut pas manquer. Par exemple, le courant, par exemple, l'eau, ce sont des choses que, avant de vivre, il faut mériter aussi le minimum. Donc la province a un sérieux problème. Et surtout, la jeunesse est abandonnée, la jeunesse n'est pas encadrée. Une jeunesse qui sort directement d'une crise, l'abandonner encore, c'est tuer toute une communauté. Nous pensons que, comme on le fait chaque jour, c'est s'approcher auprès des gouvernants, s'approcher auprès de l'exécutif, auprès des autorités, pour défendre en soi, en quelque sorte, les droits des jeunes, que ces jeunes que vous abandonnez deviendront une charge de trop pour cette province, ou une charge aussi pour notre pays, parce que quelque chose qu'on abandonne se dirige de soi, et puis tout peut arriver. Et là, alors si nous ne voulons pas que notre jeunesse se lance dans les hostilités, il y a intérêt d'encadrer cette jeunesse. C'est pourquoi c'est tout ce qu'on a toujours fait, et travailler avec d'autres organisations de jeunes, pourquoi pas les conseils de la jeunesse, pour essayer un peu d'approcher les jeunes, éveiller la conscience de cette grande partie de notre population. Majoritairement, notre population a plus de 60% elle est jeune. Donc, lorsqu'on abandonne cette jeunesse, on néglige cette jeunesse, elle manque l'espoir de se reconstruire et d'avancer dans les bons. Ça sera une crise de trop que nous créons dans notre espace.
Vous avez relevé le fait qu'il y a eu des promesses faites, notamment pour les ex-combattants, ceux-là qui ont abandonné les armes, qui étaient dans le Kamwina Sampou. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Est-ce que, finalement, les doléances de ces jeunes ont été rapportées aux autorités par votre organisation?
Je venais de le dire que l'État a failli, l'État congolais a failli à sa mission, parce que les gens qui ont poussé ces jeunes à faire des hostilités avaient fait des promesses à ces jeunes qu'ils intégreront un jour le pouvoir, que s'il y a changement de régime, certains vont se retrouver. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Ces jeunes ont été poussés de faire ces choses moyennant, en contrepartie, quelques promesses. Mais l'État aussi, qui devait rétablir des choses, a failli à sa mission. Et l'État congolais n'a pas pu donner la chance à ces jeunes qui sortent des hostilités, la chance de vivre, en fait, de mériter un emploi décent, de mériter un logement, d'avoir quand même l'espace ouvert pour des activités entrepreneuriales, par exemple. Ces jeunes sont quasiment abandonnés et tout ce que nous pouvons faire, non seulement du côté des jeunes, d'éveiller leur conscience, d'abandonner ces anciennes activités, mais aussi il faut charger l'État congolais qui a les droits, comme je le disais dans l'article 36, de donner de l'emploi aux jeunes, d'avoir quand même des politiques publiques dans l'avantage de cette population, parce qu'on ne donne pas seulement les feux verts aux jeunes d'aller étudier, pendant qu'on sait qu'après 5 ans, ils rentrent dans leur maison, ils commencent à vivre, demandant encore un petit savon auprès de leurs parents. Nous formons quel pays? Un pays qui donne l'accès au travail qui est aux membres, aux militants des partis politiques. C'est indigne, c'est inacceptable. Donc, on doit dépolitiser des institutions autres qui pouvaient ouvrir l'espace de compétition à tous les jeunes. Donc, les jeunes doivent se sentir qu'ils sont chez eux, ils sont sur leur territoire. On ne peut pas seulement parler de l'intégration de la jeunesse aussi dans l'armée pour défendre le pays, mais il faut aussi ouvrir l'espace pour d'autres institutions publiques. Nous, dans notre organisation, nous nous battons pour ça, non seulement pour l'emploi, mais aussi pour les droits qui sont reconnus à notre jeunesse, mais aussi demander à ce que cette dernière soit encadrée, parce que si on n'encadre pas la jeunesse, elle devient un danger pour une nation.
Mais comment réagissent les autorités? Qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet exactement?
C'est un combat. Dans tous les plaidoyers, il y a toujours des promesses. On ne laisse pas ou on ne lâche pas parce que on dit toujours qu'un rêveur, c'est celui qui se bat sans relâche. Donc nous avons ces rêves-là qu'un jour, là, notre jeunesse va occuper des postes de prise de décision et qu'un jour, on doit reconnaître que la jeunesse donne beaucoup à cette nation, à ces pays, à cette province aussi. Mais nous continuons toujours à nous battre. Il y a déjà des avancées, il y en a qui comprennent déjà des choses, mais ce n'est pas suffisant. Nous continuons toujours à mobiliser la jeunesse, parce que si aussi des jeunes ne se lancent pas dans ces combats de revendications, dans ces combats de veille de conscience pour reconnaître qu'ils sont dans le droit de réclamer quelque chose, ces autorités ne feront rien en retour. C'est pourquoi nous continuons toujours nos plaidoyers, nous continuons toujours à nos capacités, à reconstruire cette jeunesse qui est en désespoir total pour faire vivre l'espoir qui doit renaître, parce que nous ne sommes pas seulement l'espoir de demain, mais nous sommes l'énergie et une opportunité pour le présent.
D'accord, monsieur Possien, Diva, Missinga, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Pour prévenir des tensions dans la région du Kasaï, l'État congolais devra mettre en place une politique d'encadrement de la jeunesse sur l'ensemble du territoire national. Arsène Mbumba, analyste politique et expert en prévention, gestion et résolution des conflits, encourage toutefois les jeunes à entreprendre et à l'État congolais à alléger les impôts et taxes en faveur de jeunes entrepreneurs. Arsène Mbumba s'entretient avec Gisèle Cage.
Monsieur Arsène Mbumba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes analyste politique et expert en prévention, gestion et résolution des conflits. Quels sont les besoins qu'ont les jeunes aujourd'hui?
Bon, en fait, au regard de ces grands pourcentages qui regorgent le Kasaï central en matière de la jeunesse méritait mieux. Vous savez, quand on parle des conflits, beaucoup plus qui sont impliqués dans les conflits ou qui y participent, ce sont des jeunes. Et qu'est-ce qui est à la base? C'est la pauvreté. Et donc, l'État a une grande partie de la responsabilité et aussi les jeunes en ont. Je vous explique. Les jeunes, à leur niveau, bien que l'État ait plus de responsabilités, les jeunes ne doivent pas plus se limiter à attendre que l'État leur donne tout. Il y a par exemple l'entrepreneuriat. Mais quand vous y entrez dans l'entrepreneuriat des jeunes, il y a certains impôts, il y a certaines taxes qui freinent à ce que ce jeune-là qui se lance dans l'entrepreneuriat ne s'y adonne pas. Et donc, l'unique façon de sortir de cette auberge pour eux, c'est courir à la violence ou soit au conflit. Et quand ils entrent dans ce conflit, l'État ne leur apporte même pas un bon encadrement qui peut pérenniser leur sortie de crise. L'État va tendre la main ailleurs, auprès de bailleurs de fonds, par exemple avec de PAM et consorts. Avec les aides humanitaires, ça replonge encore des jeunes dans la paresse. Donc quand il n'y a pas des aides, les mêmes jeunes, ils ont été pris en charge momentanément, vont toujours recourir à la violence quand ils manquent. Il faut une bonne politique d'encadrement de la jeunesse qui doit être pérennisée, que ce soit au niveau national et surtout au niveau provincial. Vous savez qu'ici à Kananga, les jeunes ont leur consortium, hein, ils ont leur cadre qui est le CIK. Et donc, à partir de ces cadres, l'État pouvait beaucoup investir dans la jeunesse, je vais dire, en octroyant au moins une ligne budgétaire à chaque fois qu'il y a vote de budget. Et quand il y a vote.
C'est au niveau provincial.
Au niveau provincial, avec l'édit. Quand il y a l'édit qui est voté et que les jeunes-là sont pris en charge en permanence ou permanemment, vous allez comprendre que ces jeunes-là ne pourront plus recourir à la violence pour survivre. C'est l'État qui doit faire. Mais les jeunes aussi, vous savez, si on parle plus des violences basées sur le genre, ça se fait plus au village. Parce qu'ils n'ont pas de distraction, ils n'ont pas où aller en dehors de champ. Mais qu'en plus, ils s'attendent à ce qu'on leur apporte de l'aide. C'est encore une faiblesse. Et cette faiblesse-là va leur envoyer dans des violences basées sur le genre, et surtout viol des mineurs et consorts. Donc, il suffit une auto-prise en charge de la jeunesse d'abord, sur le plan mental, et que l'État fasse ou joue pleinement son rôle d'encadreur ou d'encadrement pour que ces jeunes qui sont abandonnés actuellement puissent quand même vivre comme les autres jeunes des autres coins du pays.
Parlons des événements Kamuinansa pour vous en tant qu'expert en prévention et gestion et réconciliation des conflits. Quel est le travail qui a été abattu par la commission justice, paix et réconciliation? Est-ce que c'est un travail qui rapporte aujourd'hui des fruits ou il y a encore beaucoup à faire?
Bon, beaucoup reste à faire dans ce secteur, madame. Effectivement, nous avons vu comment le conflit était né. Nous avons vu comment il y a eu désarmement. Nous avons vu comment l'État est en train ou a été en train de travailler sur la réinsertion de ces gens-là. Mais est-ce que tous ceux-là qui ont perdu les leurs, est-ce qu'ils ont été indemnisés? Est-ce que l'État a eu à condamner tous les bourreaux? Donc, il reste beaucoup à faire parce que si vous partez au village et là où étaient nés les conflits, beaucoup de bourreaux marchent en homme libre.
Donc, ils sont en circulation.
Ils sont en circulation. Mmh. Et donc, c'est ce qui fait assez qu'après chaque conflit, que les gens ne puissent pas s'abstenir en commettre d'autres. Ils trouvent qu'il y a absence totale de l'État, ils peuvent faire tout ce qui leur passe dans la tête. Et donc, s'il y a une justice qui est rendue, pleinement rendue, une justice impartiale, et que le bourreau est condamné et que la victime est prise en charge, nous pensons qu'effectivement, on va réduire les conflits. Mais quant à ces dossiers-là de Kamuinansa, c'est comme s'il y a eu du surplace. Donc, au-delà du désarmement, ces gens-là doivent être pris en charge et doivent être encadrés. Et pourquoi pas...
Ceux qui doivent répondre à la justice...
doivent répondre. Et que de jeunes filles qui étaient victimes de viols pendant ces conflits doivent être non seulement prises en charge, mais doivent être aussi scolarisées.
Il y a de plus en plus de jeunes non scolarisés, de jeunes filles.
Oui, oui, mais allez-y au village, faites les constats, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas scolarisées. Et tout ça, ça donne lieu à des mariages précoces. Et donc, il y a beaucoup à faire dans ce secteur. La violence, la guerre n'a jamais construit. Mais c'est à l'État de prendre des mesures et des précautions pour prévenir d'abord des violences et les gérer et les terminer une seule fois. Mais avec le temps, nous croyons sincèrement que ça va aller. Mais tout commence par la prise de conscience de tout un chacun, la population qui est dans la violence et qui participe, et l'État qui doit encadrer.
Mais vous qui êtes dans la prévention des conflits, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne vive plus les événements passés de Kamuinansa par exemple?
Le grand travail reste la sensibilisation. Donc on doit sensibiliser, on doit montrer à la population les pour et les contre de la guerre. On doit multiplier des séries d'encadrement, des ateliers. On doit passer par des spots publicitaires. Donc il y a tout un canevas où il y a tout un travail à abattre. Mais ce travail-là ne doit pas engager un seul individu ou un seul secteur. C'est un travail qui concerne tout le monde. Et pour ce faire, il faut beaucoup de moyens. Et donc c'est l'État qui doit disponibiliser plus de moyens pour que ceux-là qui sont impliqués dans ce secteur-là puissent y travailler pour arriver à la prévention réelle des conflits au Kasaï central.
Vous avez soulevé aussi des problèmes de la jeunesse hein, au Kasaï central, la jeunesse désœuvrée, tout ça. Que doit faire l'État? Quelle est la part de l'État et quelle est la part de jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même des jeunes aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat, tout ça. Quelle est la part de l'État et la part des jeunes?
Les jeunes, leur part, c'est de commencer les activités d'entreprendre. L'État a l'obligation d'alléger au moins les impôts, les taxes. C'est ça la part de l'État et c'est ça la part de la jeunesse. Quand il y a l'allègement ou l'exonération de certains impôts et taxes, vous aidez les jeunes là à pouvoir s'ouvrir et entreprendre. Mais à chaque fois qu'il y a des activités qui sont entreprises par les jeunes, il y a plus des impôts, il y a plus de taxes. Vous n'aidez pas la jeunesse à avancer, mais plutôt vous la poussez à quitter les secteurs d'entrepreneuriat et se donner à la violence qui est l'unique façon pour eux de pouvoir se donner plus de moyens.
Merci, Monsieur Arsène Bumba. Je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en prévention, gestion et résolution des conflits ici au Kasaï central. Merci.
C'est à moi de vous dire merci, madame.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
8 ans après les événements malheureux de Kamuina Sampou, quelle est la vie des nombreux jeunes du Kasaï? Peter Bakandoa Chitumbu, président du conseil provincial de la jeunesse au Kasaï central, répond à cette question et d'autres au micro de Gisèle Cage.
Je m'entretiens avec Monsieur Peter Bakandoa Chitumbu, qui est le président provincial de la jeunesse Kasaï central. Bonjour.
Bonjour madame.
Dites-nous comment se porte le jeune dans cette province.
Merci beaucoup. S'agissant de sa situation générale, pouvons dire que l'encadrement de la jeunesse au Kasaï central est entre les mains de privés, donc des structures, des ASBL, des zones GD, l'État congolais et l'État au niveau de la province du Kasaï central a abandonné ses responsabilités. C'est pour dire que au niveau de la province, le secteur de la jeunesse n'est pas coordonné par l'État, mais ce secteur est coordonné par les services privés. Dans tous les secteurs de la vie, vous allez comprendre que ce sont des initiatives des jeunes eux-mêmes, en commençant par l'entrepreneuriat. Mais comme vous le savez, conformément à la politique nationale de la jeunesse de notre pays, l'encadrement de la jeunesse est multisectoriel et elle est également transversale. C'est-à-dire, dans tous les domaines de la vie humaine, vous trouverez les jeunes, même partout. On ne peut pas dire qu'on réserve tel poste seulement pour les jeunes, mais vous trouverez que s'il faut que les jeunes dirigent ces pays, soit cette province, vous allez comprendre que les jeunes occuperont presque tous les postes. Mais ce qui nous fait est que c'est l'abandon et plus la pauvreté qui frappe notre région. Mais également la RDC. La jeunesse, vous pouvez dire, nous sommes le faiseur des rois. Donc nous donnons le pouvoir aux gens. Mais nous sommes incapables de nous produire nous-mêmes les décideurs qui proviennent entre nous-mêmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez voir qu'à cause de notre pauvreté, nous n'avons pas le pouvoir, donc la chance peut-être de postuler dans un poste. Par exemple, parce que pour postuler, il faut payer l'argent. Par exemple, pour gagner tel marché, il faut avoir tel. Mais au moment où vous n'êtes pas en mesure de le faire, c'est-à-dire vous allez vous retirer et ça va poser trop de problèmes. Voilà pourquoi nous pouvons dire que le secteur de l'encadrement de la jeunesse est abandonné entre les mains des privés. Une jeunesse sans aucune ligne budgétaire, qui n'est pas même reconnue dans les budgets de la province. Et une jeunesse sans infrastructure d'encadrement des jeunes au niveau de la province. Donc vous allez comprendre que la province n'a que 2 centres de jeunes construits par les privés. Mais à ce qui concerne l'État, vous allez voir même qu'à partir de la division provinciale de la jeunesse, conseil et consorts n'ont pas de bâtiments. et ils ne reçoivent rien à ce qui concerne l'appui du gouvernement congolais, soit du gouvernement provincial. C'est-à-dire, nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons oubliés. Vous allez voir les jeunes entrepreneurs qui souffrent pour accéder au marché. Un jeune qui a des initiatives, qui a des bons projets, mais à cause des critères, il se voit obligé de se retirer. Il se voit obligé d'abandonner la lutte. Pourquoi ? Parce qu'il se voit abandonné par les personnes qui sont censées lui accompagner et lui encadrer dans tous les secteurs de la ville. Prenons par exemple que dans le secteur de l'entrepreneuriat, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des initiatives, qui ont besoin d'un encadrement, mais qui ont des difficultés peut-être pour payer des taxes. Et l'État n'est pas même disponible pour encourager les initiatives des jeunes au niveau de la région. Voilà pourquoi, dans ce secteur, il y a trop de difficultés que les jeunes rencontrent. Il y a trop de problèmes que nous rencontrons. Voilà pourquoi nous disons que nous nous portons mieux à cause, grâce à nos efforts propres et nos efforts privés. Et nous n'abandonnerons pas la lutte, même si l'État ne fait rien.
Plusieurs jeunes aujourd'hui sont sans emploi, mais que fait exactement le Conseil provincial de la jeunesse pour aider tous ces jeunes-là désœuvrés qui sont en difficulté?
Nous avons plusieurs initiatives, plusieurs activités que nous organisons en faveur de tous ces jeunes. Le Conseil provincial de la jeunesse, en tant que porte-parole de ces jeunes, ne croise pas les bras. Si aujourd'hui nous vous parlons que nous avons les deux centres qui sont construits par les privés, c'est-à-dire c'est l'UNICEF et le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, ces deux partenaires ont construit ces centres, c'est grâce au plaidoyer du Conseil provincial de la jeunesse. Parce qu'à Kananga, même pour réunir les jeunes dans une salle, on nous demandait l'argent. Soit il faut aller vers une église pour travailler, soit descendre dans une école pour vous réunir avec les jeunes. Mais aujourd'hui, grâce à l'implication du Conseil, le plaidoyer, nous avons des centres d'encadrement de jeunes au niveau de la province. Et ces deux centres s'occupent aujourd'hui des différentes formations des jeunes en apprentissage des métiers. Et par exemple, le Conseil a exécuté un projet de formation d'apprentissage des métiers de 600 jeunes sortis de la milice Kamuina Sapu, grâce à l'appui de l'ambassade de Suède à travers une ONG Conseil norvégien pour les réfugiés NRC en cycle venu de Goma. Et pendant 2 ans, 600 jeunes ont été formés dans les différents métiers, entre autres la fabrication de savon, restauration, menuiserie métallique, maçonnerie, mécanique auto. Donc pendant les 2 ans, ces jeunes ont été formés et outillés. Mais vous allez comprendre que 600 jeunes ne représentent rien pour une province qui a une population majoritairement jeune. Et aujourd'hui, ça nous pose trop de problèmes. À quel niveau? Parce que si par exemple les jeunes qui combattaient dans les conflits comme Kamuina Nsapu ont été sensibilisés par le Conseil provincial de la jeunesse, de quitter les groupes de semeurs de troubles, de quitter la milice et adhérer dans le processus de la paix, ces jeunes ont accepté. Mais jusqu'aujourd'hui, ces jeunes ne font rien. Vous allez comprendre qu'ils ont accepté d'abandonner les groupes de semeurs de troubles, ils ont accepté d'intégrer la communauté pour contribuer au développement de la province. Et aujourd'hui, ces jeunes-là ne font rien, ils ne sont pas encadrés, ne sont pas formés. Vous allez comprendre que ça va poser trop de troubles, ça va poser trop de problèmes au niveau de la communauté, parce qu'un jour ils vont dire, comme nous ne faisons rien, nous allons retourner encore dans les groupes des miliciens. En dehors de ces 600 jeunes, depuis le conflit Kamuina Nsapu jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune autre structure qui s'est présentée pour travailler encore en faveur des jeunes et s'occuper de l'encadrement de la jeunesse. Des 600 jeunes formés par les centres des ressources pour les jeunes sous l'encadrement du Conseil ont été appuyés et outillés encore. Par exemple, quand un jeune suit la formation en coupe-couture, après la formation, il reçoit la machine à coudre et autres outils pouvant lui permettre de démarrer au moins une activité génératrice de revenus au niveau de la communauté. C'est tout ce que nous avons fait. Mais en dehors de ces partenaires, depuis que NRC a fermé ses portes à Kananga, c'est NRC qui nous appuyait à travers l'ambassade de Suède qui finançait. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons connu aucun autre partenaire. Il y a UNICEF qui nous appuyait à travers l'éducation civique, la santé de la reproduction, Et là, encadrer les jeunes en citoyenneté responsable et la protection des biens publics et biens privés. Comment nous pouvons privilégier et protéger ce que nous construisons en souffrance et ce que nous avons acquis peut-être dans des moments difficiles. Donc nous travaillons avec les jeunes dans les différentes thématiques pour qu'ils comprennent qu'ils auront la charge de cette province demain. Et si nous nous engageons à détruire ce que nous construisons en souffrance, demain ou le lendemain, quand il sera au pouvoir, quand il prendra un poste de prise de décision, tu manqueras où tu dois travailler, où tu dois siéger, soit pour reprendre une décision. Voilà pourquoi nous travaillons sur l'éducation civique, à la citoyenneté responsable, et aussi nous invitons aux jeunes à être de vrais responsables pour la région du Kasaï central au niveau de la communauté. Aujourd'hui même, à travers les 600 jeunes formés par les centres des ressources et à travers l'accompagnement de DNRC, nous avons réussi à obtenir une exonération. Donc ces jeunes sortis de la ministre Kamouna Sapou ne payent pas de la taxe. Ils ont reçu une exonération de la part du gouvernement provincial. C'est une chose que nous saluons par rapport à cet encadrement, mais le reste des jeunes sont abandonnés.
Mais les jeunes sortis des groupes Kamouna Sapou, donc il y a ceux-là qui travaillent et ceux-là qui ne travaillent pas, qui ont leur propre activité.
Les 600 jeunes ont été formés et exonérés. C'est-à-dire aujourd'hui, ils travaillent dans leurs activités. C'est comme j'ai dit, quelqu'un qui quitte la formation, une fois formé, et on met à sa disposition une machine à coudre, on met à sa disposition peut-être d'autres outils pouvant lui permettre de se lancer dans les activités, quitter les groupes de semeurs de troubles. Vous allez comprendre à ce niveau que beaucoup de jeunes qui ont adhéré dans les mouvements Kamouna Sapou, c'est à cause de leur statut social. Quand ils se voient abandonnés, je ne fais rien licencié, je ne fais rien gradué, et je ne fais rien, mais j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas quoi faire. Un politicien qui a beaucoup de moyens, en train de tendre la main pour lui, ce jeune va céder. Il va dire, comme il m'a proposé 1 000 $, il m'a proposé 100 $ pour piller, casser, tuer une telle personne. Vous allez comprendre que je faisais un travail de monitoring, madame, pendant les conflits Kamouna Sapou. Vous tombez sur un milicien qui a un téléphone Android avec les crédits de 70 $ dans le téléphone. Un jeune milicien avec les crédits de 70 $ dans son téléphone, vous allez comprendre qu'ils étaient bien outillés par des hommes politiques.
Manipulés.
Ils étaient manipulés. Et aujourd'hui, ces jeunes abandonnent ces mouvements où ils bénéficiaient, par exemple, 50 $ juste pour la communication. Ils vivaient comme ça. Mais aujourd'hui, ils acceptent, je ne sais pas encore les troubles, ils reviennent dans la communauté, mais ils se retrouvent toujours dans la vie difficile. Il ne fait rien. Vous allez comprendre que l'État a un rôle à jouer à ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse. Si il faut construire cette province, il faut mettre la main sur la jeunesse. Également, si vous voulez la détruire, il faut abandonner sa jeunesse. Ça va nous poser trop de problèmes. C'est pour dire qu'il y a certains jeunes qui travaillent, ils ont été accompagnés, mais d'autres sont abandonnés. Et aujourd'hui même, je peux dire la majorité des jeunes du Kasaï central qui ont été formés, je peux vous parler de jeunes de la ville de Kananga, des 5 communes. Mais les jeunes de Dibaya, les jeunes de Ndemba, les jeunes de Dimbeleng et des territoires n'ont pas été accompagnés. Aujourd'hui, si vous allez...
Les 600, c'était uniquement pour...
Juste pour la ville de Kananga, oui, parce qu'il y avait aussi les jeunes de la ville de Kananga, des 5 communes qui avaient adhéré à ces mouvements Kamouna Sapou, qui ont contribué à la destruction, qui ont accepté d'abandonner ces mouvements et réintégrer la communauté. Alors, à notre niveau, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Au niveau des territoires, personnellement, moi, à ma qualité du président, je n'ai jamais encouragé les dons que nos partenaires accordent aux communautés. Par exemple, quelqu'un qui était habitué à aller au champ pour cultiver, travailler pour avoir un peu la nourriture et tout ça, vous lui amenez, vous quittez au centre-ville avec un sac de manioc ou de maïs vers le village. Donc, vous donnez à cette personne un sac de maïs et un sac de manioc pour vivre pendant une période. Vous lui encouragez à ne pas peut-être faire autre chose, à rester à la maison pour commencer à vivre une vie de mendicité. Peut-être aujourd'hui, il y a la faiblesse au niveau des communautés, beaucoup de jeunes qui travaillaient au niveau des champs ne travaillent pas encore, ils sont devenus des patrons. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même si je ne pars pas travailler, on viendra distribuer des maïs ici, on viendra distribuer des manioc, on viendra distribuer des nattes. Mais c'est à partir du village qu'on fabriquait des nattes. Aujourd'hui, des nattes quittent de la ville vers le village. C'est tout ce qui nous décourage. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'un jeune quitte, soit une famille quitte Dimbeling pour venir acheter des maïs au centre-ville de Kananga. Une famille quitte Adibaya pour venir acheter des maïs au centre-ville de Kananga. C'est tout ce qui décourage beaucoup de gens et ça affaiblit beaucoup de gens à ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat.
Radio Okapi à Kananga, Malandi Washinga avec Okapi Service et Éco d'économie. Venez nombreux pour participer à l'enregistrement des deux grandes émissions publiques dans l'amphithéâtre du complexe scolaire La Reconnaissance sur Tibanda. Au programme, l'électrification de la ville, les routes, la production agricole, l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes. Rendez-vous les lundis 3 et le mercredi 5 juin des 10h à 12h pour des moments d'échange inoubliables sur les problèmes qui vous préoccupent. Acteurs de la société civile, association des jeunes et des femmes, entrepreneurs, leaders d'opinion, éducateurs, acteurs politiques et opérateurs économiques, vous êtes tous le bienvenu. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service pour des moments d'échange inoubliables. N'oubliez pas, l'entrée est libre. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Peter Bakandoa Chintumbu appelle le gouvernement à agir pour prévenir d'autres tensions dans la région. Pour lui, si les jeunes sont encadrés, ils ne pourront plus tomber dans la manipulation de certains politiciens. D'autre part, la commission Vérité, Justice, Paix et Réconciliation, instituée en 2022 par le gouvernement provincial du Kasaï central pour entreprendre le processus de réconciliation après les Kamwina Sampou, n'a toujours pas commencé son travail. Le Conseil provincial de la jeunesse, à travers son président, souhaite aussi voir le bourreau qui s'est promené en toute impunité être jugé et condamné pour les crimes commis lors de l'événement Kamwina Sampou. Peter Bakandoa est une fois de plus au micro de Gisèle Cage.
Il y a combien de jeunes qui étaient dans l'ex-Kamwina Sampou qui sont identifiés par le Conseil provincial de la jeunesse et combien ont une occupation, si vous avez une idée?
De 2017 jusqu'à 2018 jusqu'à 2021, 6000 jeunes ont été identifiés, sortis de la milice Kamwina Sampou. Mais sur 6000 jeunes, seulement 600 ont été encadrés. Mais les restes sont abandonnés. Vous allez comprendre que ce n'est pas même 1000 jeunes. C'est pour dire qu'il y a un besoin au niveau de la communauté. Et nous pensons que si ces jeunes sont encadrés, ils ne pourront pas céder. Pourquoi les jeunes cèdent à la manipulation? C'est parce qu'ils ne font rien. Si un jeune a au moins une activité qui lui donne quelque chose à manger, à vivre, s'acheter les crédits, s'acheter les pantalons et vivre, se prendre en charge et s'y porter, je ne crois pas que même s'il y a une autorité qui va tendre la main vers ces jeunes se dira, je vais abandonner mes activités pour aller à son accueil, je ne pars pas, je vais rester dans mes activités. Mais aujourd'hui, au niveau de la province du Kasaï central, vous allez comprendre que si on n'a pas à faire, les jeunes restent derrière les politiciens. Les jeunes restent derrière les adultes qui ont des moyens pour se laisser manipuler. Ils se comportent comme les porteurs des drapeaux, porteurs des sacs. Ils commencent à chanter pour les autorités. Ils savent que les soirs, j'aurai 1000 francs, j'aurai 2000, j'aurai 5000, ça va m'aider à payer les transports, acheter les mégas et tout ça. Mais d'ailleurs, ce que l'autorité lui propose ne peut pas résoudre à son besoin. Par exemple, vous chantez pour quelqu'un, vous marchez avec quelqu'un toute une journée, il vous donne 5000 francs. Dans les 5000 francs, quand vous arrivez sur le marché de Kananga, un méga de maïs qui vous coûte 5000 francs, est-ce que vous allez acheter quoi pour vivre? Et d'abord, vous-même, vous avez besoin d'un transport, vous-même, vous avez besoin de la communication, vous-même, vous avez besoin de quoi vivre. Donc, ça pose trop de problèmes pour vivre à Kananga. Voilà pourquoi on a toujours demandé à l'État congolais de s'occuper de l'encadrement des jeunes, soutenir les initiatives des jeunes, accompagner les jeunes dans leurs initiatives, accorder
Par exemple, si nous souffrons aujourd'hui, une province qui n'a pas prévu même une ligne budgétaire dans les budgets provincial pour l'encadrement de la jeunesse. Mais nous allons encadrer les jeunes avec quoi? Donc, nous sommes obligés de voir. Maintenant, quand il y a un député qui va dire, je vais créer ma fondation, je vais recruter les jeunes. C'est comme ça que les privés s'occupent de l'encadrement de la jeunesse. Et notre député, soit un sénateur, va venir, il va dire, ma fondation va s'occuper de l'encadrement de la jeunesse. Mais ce que ce député va dire aux jeunes, vous et moi, nous ne connaissons pas. Peut-être c'est une milice qu'il est en train de monter, c'est un groupe de miliciens qu'il est en train de monter, on ne connaît pas. C'est une milice qu'il crée, pourquoi? Parce que l'État a lâché à ses responsabilités. Mais si l'État joue réellement son rôle, je pense que toutes ces fondations ne pouvaient pas faire du n'importe quoi. Dans le secteur de l'encadrement de la jeunesse, c'est comme je l'ai dit, la question est multisectorielle et transversale. Dans tous les secteurs, si on pouvait dire, nous recrutons les jeunes de tel âge à tel âge. Aujourd'hui, même les humanitaires qui viennent au Kasaï central, vous allez voir que ça nous fait même honte d'en parler. Une structure qui arrive à Kananga, dans son intervention, elle va vous dire que je viens pour contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes, accompagner les jeunes. Mais lui-même vient à Kananga même avec un chauffeur. C'est comme si à Kananga, il n'y a pas les jeunes qui ont fait la mécanique. Ici, à Kananga, cette organisation va recruter seulement les gardiens. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas même amener les gardiens ici à Kananga. C'est tout ce qui pose problème, c'est tout ce qui nous affaiblit. Nous invitons toutes ces organisations à bien collaborer, travailler et accompagner l'État. Accompagner l'État, c'est venir à Kananga, utiliser la main-d'œuvre locale, comprendre les besoins de la communauté et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre les difficultés que les jeunes rencontrent au niveau de la communauté.
Comment vous évaluez à votre niveau le travail fait par la commission Vérité et Réconciliation après les événements des Kamuina-Nsapu?
La commission Vérité, Justice et Réconciliation, cette commission est encore au niveau de l'élaboration de ses outils du travail. Elle n'a pas encore commencé le travail sur terrain. Depuis que cette commission a été installée, nous n'avons pas vu les actions. C'est en 2022 que cette commission a été installée par le gouverneur sortant John Kabeya. Mais depuis son installation, elle est encore au niveau de l'élaboration des outils du travail. Elle n'a pas encore fait un travail sur terrain. Vous allez voir quelqu'un qui a tué votre père, marché libre. Quelqu'un qui a tué votre mère, marché libre. Vous voyez quelqu'un qui a tué votre frère et parler, monter, descendre. C'est dire que c'est moi le tout-puissant. Donc vous allez comprendre que à un moment, c'est décourageant. Le secteur de la justice est abandonné. Nous devons demander à la justice de jouer son rôle. Par exemple, quelqu'un qui a tué tout ça aujourd'hui, quand moi là qui vous parle, je le vois en train de sillonner, marcher librement, je me dis, la justice n'existe pas. Regardez quelqu'un qui a tué ma mère, quelqu'un qui a tué mon père. Nous avons les orphelins, les enfants qui sont restés orphelins, ils ont perdu leurs parents à cause de cette personne. Mais cette personne est restée libre, il mange, il monte, il descend, il travaille, il n'a pas été inquiété. Voilà pourquoi nous encourageons l'existence de cette commission, mais nous aimerions voir les fruits de cette commission. Nous ne voulons pas que cette commission reste toujours peut-être par les noms, on dit que nous avons installé la commission, mais après on ne voit pas les fruits, on ne voit pas les résultats de cette commission. Nous aimerions voir aussi les bourreaux être arrêtés, être jugés d'une manière publique et peut-être que les victimes soient indemnisées également. Par exemple, nous avons les orphelins qui sont restés, ni père ni mère. Aujourd'hui, ils ne fréquentent pas les écoles, ils ont abandonné des écoles. Mais ils seront pris en charge par qui? Voilà pourquoi l'existence de cette commission est très capitale. Mais nous aimerions voir cette commission au travail, sur terrain, en train de résoudre les problèmes de la communauté.
Mais à part les mariages forcés, à part les cas des viols qui ont été soulevés par d'autres intervenants, quels sont les problèmes que rencontre le jeune fille ici au Kasaï central?
Les jeunes filles sont exposées à beaucoup de choses. Au niveau de la région du Kasaï, vous allez déjà comprendre que les cas de violence ont été déjà soulignés et vous allez voir qu'il y a le problème d'eau au Kasaï central. Si nous n'avons pas l'eau des robinets, la jeune fille est obligée de quitter tôt pour aller puiser de l'eau. C'est pendant ces moments qu'elles sont plus violées. Les femmes sont violées tôt, matin et kidnappées aussi. Vous allez comprendre même au niveau de la communauté, parce qu'elle n'est pas, elle ne travaille pas. Question de la participation de la jeune fille aussi, c'est elle-même qui se néglige. Le problème, c'est elle-même. Au moment où elle ne comprend pas et qu'elle a un rôle à jouer au niveau de la communauté, voilà pourquoi elle ne participe pas. Je peux vous donner l'exemple. Quand j'ai reçu votre appel pour la réalisation de cette interview, j'ai contacté les jeunes filles qui devraient participer. Mais chacune m'a dit, j'ai une charge à la maison, je n'ai pas les transports pour arriver en ville et tout ça. C'est comme ça que vous allez voir qu'autour de votre émission, votre interview, il n'y a qu'une seule fille qui est venue répondre. Mais ont été informées. Donc la jeune fille n'arrive pas à se donner d'abord de la valeur. Elle ne comprend pas d'abord son importance. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place un cadre de concertation. Comme ça, autour de ce cadre, nous allons parler de l'importance, les rôles que la jeune fille peut jouer. Faire comprendre à la jeune fille qu'elle peut tout faire, même tout ce que les garçons font, et la fille peut être aussi en mesure de le faire. Voilà pourquoi nous avons initié l'éducation par les pères. C'est-à-dire l'éducation par les pères des semblables. C'est-à-dire, tout ce que moi j'ai fait, l'autre peut le faire. Nous luttons pour effacer l'esprit sexe dans les têtes des jeunes. C'est-à-dire, quand un garçon et une fille marchent ensemble, dans l'esprit kassaïen, on dit seulement que c'est un homme et une femme. Non, on peut s'accompagner, on peut travailler ensemble. Une fille peut faire ce qu'un garçon fait. C'est pour dire que nous encourageons les jeunes filles à participer, à décider, à prendre la parole en public. C'est tout ce que nous voulons. Conformément à la politique nationale congolaise de notre pays, on dit « est jeune toute personne de deux sexes », donc âgée de 15 à 18 ans. Nous n'arrivons pas à identifier que les femmes et les garçons non plus, qu'ils soient jeunes, filles ou garçons, nous voyons les jeunes. Voilà pourquoi nous encourageons les jeunes filles à participer partout dans les activités. Nous connaissons qu'il y a le problème de la sous-estimation, des considérations au niveau de leur communauté. Parce que si la jeune fille s'impliquait pour connaître ses droits, elle va les défendre. Même quand elle se retrouvera devant les mariages précoces, même quand elle se retrouvera devant les intimidations, elle ne va pas céder. Voilà le problème aussi majeur, c'est là. Des considérations et la négligence de la jeune fille elle-même.
Parlons un peu de la masculinité positive. Comment elle se porte ici au Kassai Central?
Je ne dis pas que ça marche bien, je ne confirme pas, parce que vous savez, d'abord chez nous, au Kassai Central, la place de la femme, c'était à la cuisine, et au marché, tout ça. L'homme, sa place, c'est autour d'une table, attendre la nourriture et tout ça. Mais nous sommes en train de travailler pour que les deux parties puissent comprendre qu'elles ont été créées pour s'accompagner et vivre ensemble. La femme peut faire ce que l'homme fait, l'homme peut faire ce que la femme veut faire. C'est tout ce que moi je peux dire. Mais c'est encore une école qu'il faut renforcer. C'est encore une matière. Moi je me dis, si nous voulons que cette matière soit suffisamment intégrée au niveau de la communauté, soit respectée et appliquée, je propose que ça soit inséré dans la politique nationale de l'éducation. Donc, à partir de l'école primaire, à partir des études, il y a moyen d'apprendre aux jeunes filles et aux jeunes garçons comment on peut appliquer la masculinité positive. Et déjà, ça va monter. Même les notions entrepreneuriales, on doit insérer toutes ces notions à partir de l'école primaire. À ce moment-là, vous allez voir même l'éducation financière, on n'arrive pas à comprendre comment planifier des choses. Mais si ça commence au niveau de la base, au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, même quand l'enfant va arriver à l'université, il va grandir avec cet esprit-là. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que moi, peut-être quand j'ai grandissé, les choses de masculinité positive n'existaient pas. On a introduit ça, je ne sais pas sans quelle année, mais je ne peux pas croire que ça, mais au moins 5 ans ici, en RDC, même au Kassai Central non plus. Donc, ce sont des nouveautés, des notions que les gens sont en train de développer quand ils se disaient que nous bloquons l'autre, mais nous voulons le développement. Nous ne pouvons pas laisser l'autre derrière nous au moment où nous voulons avancer. Nous devons marcher ensemble.
D'accord. Monsieur Peter Bakandoa Chitumbu, vous êtes président provincial de la jeunesse au Kassai Central. Merci en tout cas pour votre disponibilité et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, Madame Gisèle. Nous sommes très contents de votre passage dans notre province et nous pensons que ça ne sera pas la première fois. Et c'est le début de notre collaboration.
Merci.
Merci beaucoup, madame.
C'est par ici que s'achève cette émission sur Radio Okapi. Quelle est la vie des jeunes du Kasaï central après les événements de Kamwena Sampou? C'est le sujet qui était au menu de cette émission que vous pouvez réécouter sur le site des Radio Okapi, www.radiookapi.net et sur la page Facebook Bana Okapi. Nous disons merci à nos invités, Peter Bakandoa Chitumbu, président du Conseil provincial de la jeunesse au Kasaï central, Arsène Mbumba, analyste politique et expert en prévention, gestion et résolution des conflits, Possian Divin Misenga, coordonnateur du collectif Diyidia Kasaï, qui nous ont suivis depuis la ville de Kananga. Merci à Gisèle Kage qui a réalisé cette émission. Jean-Marc Matois qui l'a supervisée. Mise en onde de Deps Vita à la présentation Stanislas Diomi. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. On se retrouve demain à la même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.